Donc je vais vous parler de mes petits trésors, de quelques petits trésors de l'économie comportementale. Alors, je vous en liste quelques-uns, mais on ne va pas avoir le temps de les développer tous. Hein. Mais premier trésor, là je vais en parler un petit peu. Les individus répondent aux incitations monétaires, mais pas toujours dans le sens prédit. Donc je pense que je vais vous faire plaisir en vous montrant quelques résultats qui vont dans ce sens-là. Deuxième petit trésor, je vais essayer de vous en parler également. Les individus réagissent au risque, c'est-à-dire que quand vous êtes face à des situations de risque, d'incertitude, eh bien, vous ne réagissez pas de la même manière quand il s'agit d'incertitude sur des gains ou quand il s'agit d'incertitude sur des pertes. Troisième résultat intéressant de cette recherche comportementale, c'est sur les préférences temporelles. Les individus qui vivent dans le présent ont moins de succès dans la vie. Nous avons des méthodes qui permettent de mesurer les préférences pour le présent ou pour le futur. Est-ce que vous préférez gagner 15 euros tout de suite ou est-ce que vous préférez gagner 20 euros dans 3 mois ? Voilà le type de questions qu'on peut poser. Et puis on peut varier les montants, on peut varier le temps, etc. Et puis ensuite, on peut corréler ces préférences avec vos résultats économiques, votre revenu par exemple, votre niveau d'éducation. Et en général, ce qu'on va voir, c'est que les personnes qui ont une très forte préférence pour le présent ont en général investissent moins dans l'éducation, ont des revenus plus faibles, etc. Donc on va essayer d'établir des corrélations entre ces préférences temporelles, c'est-à-dire la capacité de renoncer à un gain immédiat pour avoir un gain plus important dans le futur. Comment est-ce que ça s'est corrélé avec la réussite dans la vie ? Je pourrais revenir si vous avez des questions sur ce point. L'homo economicus a parfois des sentiments moraux. Parfois, parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'on a quand même une majorité de la population qui se comporte de manière extrêmement égoïste et individualiste. Mais on a aussi une proportion significative d'agents économiques, d'individus, qui ont des sentiments moraux. Donc je vous montrerai ça. Et puis l'homo economicus est parfois un homme de confiance, ça je ne vais pas avoir le temps de le développer, mais on a des jeux qui permettent de mesurer la confiance que l'on fait aux autres et surtout de mesurer de quoi dépend le degré de confiance qu'on accorde aux autres.
Excusez-moi, mais j'ai un peu de mal à croire qu'on puisse en déduire quelque chose de ces expériences concernant l'égoïsme ou pas des personnes, parce que là on les met sur un terrain de jeu, mais qui n'a pas beaucoup d'importance d'un point de vue moral. C'est-à-dire, s'ils gagnent beaucoup, au détriment des autres, ils s'en fichent.
Absolument. Oui. Alors, moi, ils ne s'en fichent pas. Il y a une façon de répondre à cette question, c'est de garder exactement la même structure de jeu, et puis aller faire la même expérience dans un pays en développement, avec les mêmes montants. 15 euros ici, et puis vous partez avec l'équivalent de 15 euros, vous allez faire ça en Chine ou en Indonésie. Donc là, les 15 euros vont représenter un mois, deux mois, trois mois de salaire. Et puis, vous allez voir si, effectivement, quand il y a trois mois de salaire en jeu, si les gens sont aussi généreux face aux autres. Eh bien, en général, vous trouvez les mêmes résultats. C'est-à-dire que la notion de réciprocité, par exemple, est quelque chose de très fort, j'anticipe un peu, mais qu'on va retrouver dans toutes les sociétés. Et même si, ici, on va jouer avec 15 euros en moyenne de l'heure, si vous payer l'équivalent en une heure, si la personne peut gagner en une heure trois mois de salaire, eh bien, pour autant, l'égoïsme n'est pas forcément ce qui va primer. Donc, vous voyez, en allant dans des conditions différentes, en soumettant nos résultats à des tests de robustesse, on peut arriver à montrer que, si, ces résultats, ils sont robustes. Bon, je vais revenir sur ces aspects-là. Hein. Alors, Premier trésor. Les individus répondent aux incitations monétaires, mais pas toujours dans le sens prédit. Alors, je vais vous donner un exemple sur une expérience qui n'a pas été faite en laboratoire, mais dans des crèches, ce qu'on appelle des expériences de terrain. Alors, c'est une expérience qui a été faite par deux auteurs qui s'appellent Gnizi et Rustichini. Et ils ont fait cette expérience dans 10 crèches en Israël. Et donc, vous savez, le problème souvent dans les crèches, c'est que les parents, ils sont incorrigibles, ils arrivent toujours en retard. Enfin, beaucoup de parents arrivent en retard. Alors, c'est un peu un problème, parce que ça veut dire que le personnel doit rester sur le trottoir avec le petit en attendant que papa ou maman arrive. C'est pas correct. Et donc, l'idée, c'était de dire, après tout, on pourrait peut-être taxer les parents qui arrivent en retard, et ça va un peu les éduquer, ils vont comprendre que s'ils doivent payer une amende chaque fois qu'ils arrivent en retard, ils vont peut-être commencer à arriver à l'heure. Et donc, vous savez, les économistes, ils raisonnent toujours avec des taxes ou des incitations. Hein. Là, c'est une taxe, une amende. Alors, pour pouvoir comparer, donc, dans 4 crèches, on n'a rien changé, puis dans 6 crèches, on a introduit l'amende. Alors, c'était une amende de l'équivalent de 3 dollars hein, pour les parents qui arrivent en retard. Ça a été introduit en semaine 5. Donc, on regarde déjà dans les 10 crèches, qu'est-ce qui se passe dans les 4 premières semaines, à quelle heure les parents arrivent. En semaine 5, on introduit l'amende pour les parents qui arrivent en retard dans 6 des 10 crèches. Et puis, au bout de 12 semaines, on retire l'amende pour savoir si ben, les parents ils ont été éduqués et puis après, ils continuent à arriver à l'heure. Ah, voilà le résultat. Alors, ici, donc vous avez les semaines, là. Donc, les ronds blancs, là, c'est le groupe de contrôle, donc le groupe dans lequel on n'a pas changé la règle. Et puis, la courbe noire, c'est ici, là, c'est la valeur moyenne pour les crèches qui ont fait cette expérience, donc qui ont introduit l'amende, Alors, ce qui est curieux, c'est ces deux courbes, elles vous indiquent la proportion de parents qui arrivent en retard. Alors, vous voyez que dans les 4 premières semaines, bon, en gros, les crèches témoins et les crèches testées sont à peu près équivalentes. Hein. Il y a un taux de parents qui arrivent en retard de l'ordre de 10%. Quoi. Donc ici, on introduit l'amende. Donc, évidemment, dans ces crèches, on n'a pas introduit d'amende, donc ça continue comme avant, hein. Il n'y a pas de changement. Mais ici, c'est les crèches où on a introduit l'amende. Autrement dit, on introduit une taxe et les parents, ils arrivent encore plus en retard qu'avant. Avant, il y avait 10% de parents retardataires, ça passe à 20%. Exactement. On a introduit une incitation, les parents, ils réagissent aux incitations. Hein. Alors, pas dans le sens prédit. Parce qu'avant, ceux qui arrivent à l'heure, en gros, ils se sentent une petite obligation morale. Parce qu'ils savent très bien que s'ils arrivent en retard, ils gênent le personnel. Mais à partir du moment où vous introduisez un prix, bah, vous avez payé une taxe, vous avez tous les droits. Hein. Donc, les parents arrivent en retard. Donc ça, c'était le résultat assez prégnant de cette étude. Mais il y en a un deuxième. Le deuxième, c'est quand on a retiré l'amende. Je vous ai dit, au bout de 12 semaines, on la retire. Et qu'est-ce qui se passe au bout de 12 semaines? C'est ici. Ben, ça ne change rien. C'est-à-dire qu'une fois qu'on vous a dit qu'arriver en retard, ben, ça avait un prix économique, vous l'avez payé, ben, c'est une marchandise, donc. Ben, si c'est une marchandise, ça va rester une marchandise, même s'il n'y a plus la taxe. Autrement dit, là, voilà un exemple, enfin, c'est une illustration de mauvaise utilisation des incitations. Quand je parle incitation, c'est en sens positif ou négatif, hein, c'est la récompense ou c'est la sanction ou la taxe. Hein. On a introduit une taxe, les agents économiques réagissent à la taxe, sont rationnels, hein, mais pas du tout, pas toujours dans le sens prédit, mais ils réagissent aux taxes. Quasiment le même esprit, même idée de test. C'est une expérience en laboratoire cette fois-ci. On fait venir des étudiants et puis on leur pose des questions. C'est des questions qui viennent d'un test de QI, mais peu importe. Et ils savent qu'ils sont payés au nombre de réponses correctes. Alors simplement, on va manipuler le taux de paiement. D'accord ? Vous voyez que dans certains cas, les étudiants gagnaient zéro. Donc on leur demandait de faire ce test, mais ils n'étaient pas payés. Dans un autre cas, on les payait 3 shekels. C'était fait en Israël aussi, donc c'était en shekels, 3 shekels. Puis d'autres, on les payait 10 shekels pour chaque réponse correcte. Puis la même expérience a été faite avec une activité différente. Il s'agissait d'aller collecter des fonds pour la recherche contre le cancer. Et donc on disait aux collecteurs, bah, soit on ne les payait pas, hein, soit on leur donnait 1% des fonds qu'ils avaient collectés, soit on leur donnait 10% des montants qu'ils avaient collectés. Donc la prédiction, bon, pour l'économie, c'est bah, plus on paye et plus les gens vont travailler. Donc on devrait avoir, avec une rémunération plus élevée, plus de bonnes réponses aux tests et plus d'argent collecté pour la lutte contre le cancer. Alors qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est un peu plus compliqué que ça. Vous voyez que quand on rémunère de manière élevée la performance pour le QI les tests de QI. Hein. La performance en moyenne est de 34, donc elle est plus élevée que quand on paye un petit montant de 23. C'est pareil pour la collecte de fonds. Hein. Quand on reçoit 10% de sa collecte, on récupère 219 en moyenne. Quand on reçoit seulement 1% de sa collecte, on ne collecte que 153. Ça, c'est pour répondre aussi à monsieur. Vous voyez que quand on paye plus les gens, ils travaillent plus aussi. Alors là où, par contre, on a un souci, dans cette expérience, c'est que, vous voyez, en tout cas, c'est net sur la collecte. En fait, là où la collecte rapporte le plus, c'est quand les gens n'étaient pas payés pour aller collecter l'argent. Et ici, vous voyez, la même chose, pourtant une tâche qui n'a rien à voir, la performance au test est plus faible quand vous donnez un petit salaire que quand vous ne payez pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Ça veut dire que les individus réagissent effectivement aux incitations. Si vous les payez plus, ils travaillent plus. Mais il y a des cas où la performance peut être réduite parce que vous avez introduit une rémunération. C'est-à-dire qu'on peut identifier un certain nombre de cas où il vaut mieux ne pas payer plutôt que mal payer. Et on préférera... Si vous voulez, ici, la petite rémunération, c'est considéré quasiment comme une insulte. Si on vous donne une petite rémunération, un petit gain pour faire une activité moralement riche, vous allez considérer que c'est une insulte et de fait, vous allez travailler moins que si on ne vous avait pas payé et que vous fassiez ça parce que vous avez une motivation intrinsèque.
Vous ne donnez pas en compte le motif de la collecte?
Oui. Non, mais on pourrait le faire. Mais ici, non, mais ça ne change rien. Le motif pour la collecte, c'est le même dans les trois cas. Hein. C'est les mêmes conditions. C'est des étudiants qui sont attribués au hasard. On en prend un tiers, on leur dit, toi, on ne te paye pas, on en prend un autre, c'est 1%, et un autre tiers, c'est 10%. Ils ont la même boîte pour collecter, ils ont les mêmes quartiers à explorer, c'est exactement les mêmes conditions. Donc la seule chose qui est différente, c'est le montant de la rémunération qu'on leur donne.
Mais peut-être qu'on n'a pas suffisamment évalué qu'ils le faisaient en dilettante, en se disant, je peux payer, j'aménage mon temps. Tandis que l'autre, c'est travailler plus pour gagner plus.
Alors ici, c'est vrai que là, on n'a pas tellement de contrôle du temps passé par les individus, mais... Oui, mais le résultat, il va être le même. C'est-à-dire qu'ici, vous pouvez supposer qu'effectivement, si eux ont récupéré moins d'argent, là, c'est parce qu'ils ont préféré faire autre chose que d'aller collecter. Mais le résultat, il est le même. C'est que si vous avez la seule différence au départ dans l'expérience entre les trois populations, c'est le montant de la rémunération. Et donc... Voilà, donc les incitations, ça a un effet sur les comportements, mais ce n'est pas toujours le cas que donner une rémunération supérieure entraîne nécessairement une performance supérieure. Dans certains cas, introduire de la rémunération réduit la performance. Vous savez, ça, ce résultat, on le connaît bien, parce que les études ont été faites sur les dons du sang. On sait très bien que si on paye le don du sang, on récupère des personnes qui sont peut-être moins intéressantes à prélever. Et deuxièmement, globalement, on récupère moins de donneurs. Donc ça a été testé dans plusieurs pays, ça on le sait. Le don du sang, les gens donnent leur sang parce que moralement, ils pensent que c'est une bonne chose. Si vous mettez une rémunération dessus, il y a moins de gens qui viennent donner leur sang.
Je m'excuse, vous avez la catégorie des X et Y pour qu'ils travaillent et qu'ils aient une chose, un épanouissement. Et vous entendez souvent des gens vous dire « je ne suis pas assez payé pour ce que je fais ». C'est absolument révoltant. Il faut commencer par travailler, puis on verra s'ils peuvent grimper au-dessus. C'est une notion qu'on a introduite dans la convoitise. Je ne suis pas assez payé pour ce que je fais. Alors du coup, les services publics, on voit ce que ça donne.
Mais on a reproduit en laboratoire, effectivement, des conditions type service public, c'est-à-dire où vous avez un salaire relativement fixe, et où vous voyez comment se comportent les individus au bout d'un certain nombre de répétitions du jeu. C'est-à-dire, une fois que les individus peuvent observer les efforts des autres pour le même niveau de salaire, vous voyez qu'en général, au bout d'un certain temps, ceux qui travaillaient beaucoup se mettent à travailler un peu moins. Quand ils observent que dans leur groupe, il y a des personnes qui, pour le même salaire, travaillent moins. Mais ça, nous, on va simplement chercher à identifier des relations dans les conditions les plus abstraites possibles. Voilà, donc le premier exemple, c'était pour vous montrer donc, que les incitations ont un effet, qu'elles marchent, mais pas toujours, hein. Ça, c'est le deuxième exemple de résultat que je voulais vous montrer. Les individus réagissent au risque, mais pas de la même manière face à des gains ou à des pertes. Alors, je vais vous proposer un jeu. Voilà. Je ne vais pas vous payer, par contre. Donc, si vous ne faites pas ce que je prédis que vous faites, c'est parce que je ne vous ai pas payé, peut-être. Alors, si vous êtes d'accord, je vais vous proposer de réfléchir à la situation suivante. Je vais vous proposer d'imaginer que vous avez à choisir entre deux options. L'option A consiste à gagner 500 euros de manière certaine. Donc, si vous choisissez A, encore une fois, excusez-moi, ça va être fictif, mais imaginez que si vous choisissez A, vous gagnez 500 euros. Option B, je vous propose de participer à une loterie qui vous donne 50% de chance de gagner 1000 euros et 50% de chance de ne rien gagner. Donc je vais vous demander de lever la main pour l'option A et pour l'option B. Donc je vous rappelle la situation. Hein. Si vous levez la main pour l'option A, ça veut dire que vous préférez gagner 500 euros à coup sûr. Si vous levez la main pour l'option B, ça veut dire que vous préféreriez participer à une loterie dans laquelle vous avez la moitié de chance de gagner 1000 euros et la moitié de chance de rien gagner du tout. Ok ? Alors, pardon ? Donc, je vais vous proposer, qui préfère l'option A ? Donc, préférez le montant certain. Donc, regardez dans la salle à peu près, hein, voilà. Qui préfère l'option B ? Est-ce que vous êtes d'accord ? Il y a une minorité de B. Hein. Alors, vous gardez ça dans un coin de votre tête. Maintenant, je vous propose un deuxième jeu. Alors maintenant, vous devez choisir entre toujours deux options, A et B. Mais alors, l'option A vous propose de perdre 500 euros de manière certaine. Et l'option B... Non, attendez, l'option B, elle n'est pas terrible non plus. L'option B consiste à participer à une loterie qui vous donne 50% de chance de perdre 1000 euros et 50% de chance de ne rien perdre du tout. Donc, je reprends. Ici, l'option A, vous perdez 500 euros à coup sûr. L'option B, c'est participer à une loterie qui vous donne 50% de chance de perdre 1000 euros et 50% de chance de ne rien perdre du tout. D'accord ? Non, vous ne pouvez pas refuser de jouer. Donc, je vais vous demander, qui est pour l'option A ? Donc, l'option A, vous perdez 500 euros de manière certaine. 5 personnes. Et l'option B ? Voilà. Alors... Alors, vous allez voir si vous êtes normaux. Alors, l'économiste, avant de poser la question, il réfléchit à la question, puis il se dit, bon... On a une théorie qui s'appelle la théorie d'utilité espérée, hein, qui est notre point de référence. Et en gros, on se dit, dans une situation avec des risques comme ça, on calcule la probabilité de gain de la manière suivante. Donc on multiplie la valeur de chaque réalisation possible par sa probabilité. Donc on dit, ici, dans les loteries que je vous ai proposées, hein, il y avait, dans la loterie, on pouvait gagner avec 50% de chance 1000 euros et 50% de chance 0. Donc vous faites 1000 fois 50% plus 0 fois 50%. Ça, je vous économise le calcul, ça fait 500. Autrement, et c'est pareil pour la perte. Dans les deux loteries que je vous ai données, le gain espéré était de 500 euros. Donc je vous ai donné le choix entre gagner de façon certaine 500 euros ou perdre de manière certaine 500 euros ou bien... gagner à travers une loterie, enfin participer à une loterie dont le gain espéré ou la perte espérée est de 500 euros. Pour l'économiste qui croit à la théorie de l'utilité espérée, ça veut dire que c'est exactement la même chose. Donc je m'attendais à ce que 50%, enfin que la salle se coupe en deux, vous devriez être totalement indifférent aux deux. Et vous n'étiez pas indifférent. Hein, dans le premier cas, voilà. Alors. Je ne vous ai pas compté. Ça, c'est le résultat des études qui ont été faites sur cette loterie dans des tas de pays, des tas d'endroits. Et je pense qu'ici, on était à peu près à ces valeurs-là. Dans la première loterie, 84% des sujets choisissent le gain certain dans le premier jeu. C'est l'option A. Je préfère gagner 500 euros à coup sûr que de participer à une loterie où je peux peut-être gagner 1000 euros, mais je peux aussi gagner zéro. Vous étiez à peu près au-delà de 80% également dans la salle, vous préférez le gain certain. En revanche, dans le deuxième jeu, quand il y a des pertes, 69% des sujets préfèrent risquer de perdre 1000 euros plutôt que de perdre à coup sûr 500 euros. C'est, du point de vue théorique, exactement la même situation. C'est le même choix dans les deux cas. Vous voyez qu'il y a une inversion complète de vos préférences face à la même situation. Dans la loterie, dans le premier jeu, vous avez préféré l'option A. Dans le deuxième jeu, vous avez préféré l'option B. Pourtant, en espérant, c'est absolument identique. Alors ça, c'est intéressant, parce que ça nous montre que, en fait, la plupart des gens sont averses au risque dans le domaine des gains et ils recherchent le risque dans le domaine des pertes. C'est un résultat qu'on retrouve vraiment systématiquement, et c'est ce qui a permis de mettre en place une nouvelle théorie alternative à la première, là-haut, la théorie des perspectives. Je vous ai parlé de Daniel Kahneman tout à l'heure, psychologue. C'est la traduction de leur recherche. Et en gros, l'idée, c'est qu'on a des valeurs, on pondère les pertes d'une manière différente qu'on ne pondère les gains. Et bon, on ne va pas rentrer dans les détails de cette jolie courbe, mais en gros, vous n'évaluez pas de la même manière 100 euros que vous pouvez peut-être gagner et 100 euros que vous pouvez peut-être perdre, comparé à des valeurs certaines. Non, c'est pareil. Ah non, non, je vous ai dit 50... Non, 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 je vous ai dit... Ah, alors c'est intéressant votre point, ça va me permettre de passer directement à la phase suivante. Dans le jeu que je vous ai fait jouer, la probabilité était connue, c'était une chance sur deux. Une chance sur deux, donc on aurait pu avoir un sac et puis vous auriez tiré au sort dans le sac. Hein. C'était une chance sur deux. Maintenant, regardez comment on déforme les probabilités. Si vous regardez la situation suivante, là, j'aurais pu vous proposer un pari qui vous offre 1% de chance de gagner 500 euros ou bien un gain certain de 5 euros. Ben, en fait, dans ce genre de situation-là, la grande majorité des sujets préfèrent le pari plutôt que le gain certain. Parce que c'est une toute petite probabilité. D'accord ? 83% préfèrent une perte certaine de 5 euros à une loterie offrant 1% de chance de perdre 500. Autrement dit, si on change les probabilités, là, vous voyez qu'à nouveau, vous renversez la situation. Vous devenez risk-lover dans le domaine des gains et risk-averse dans le domaine des pertes. Donc, en gros, ce qu'on arrive à montrer maintenant, et ce qu'on retrouve de façon quasi permanente, hein, c'est que ce qui compte, c'est le cadre. Est-ce qu'on est face à des risques de gains ou à des risques de pertes ? Ça conditionne complètement l'attitude qu'on a face à la manipulation de l'argent, hein. Et d'autre part, la déformation des probabilités. Selon qu'on a affaire à des petites probabilités ou à des probabilités grandes et moyennes, on interprète complètement différemment une situation.
Mais est-ce que ce n'est pas en fonction des moyens des personnes sur lesquelles on teste ? Parce que s'ils ont des moyens financiers élevés, oui, je dirais que tout petit gain ne les intéresse pas.
Oui.
Ils
préféreront, oui, c'est juste. Alors c'est pour ça qu'en général, quand on fait nos expériences, on prend des populations homogènes. C'est-à-dire qu'on va prendre, si on prend des salariés, on va prendre des salariés de même niveau hiérarchique. Si on prend des étudiants, on va prendre des étudiants qui ont à peu près le même niveau de ressources. Pour effectivement éviter d'introduire des pollutions dans le laboratoire. Ce que j'appelle pollution, c'est simplement le fait qu'on ne contrôle pas. Hein. On n'utilise pas des éprouvettes, hein, nous les économistes, mais il faut quand même qu'on ait des conditions parfaitement propres d'expérimentation. On ne peut pas tout contrôler. On essaie de contrôler le maximum de choses, et c'est pour ça qu'on va plutôt prendre des populations homogènes. Vous avez tout à fait raison, il y a des effets de richesse qui font que si vous êtes déjà très riche, vous pouvez vous permettre de prendre plus de risques que si vous avez peu de ressources.
On le voit bien d'ailleurs pour la loterie nationale que le groupe sociologique qui joue le plus sont ceux qui ont de tout petits revenus.
Oui, bien sûr, le revenu a...
Dans l'espoir de sortir de la misère.
Exactement, bien sûr.
Et puis, excusez-moi, mais alors ça pose un problème parce que ça veut dire que les gens ne sont pas rationnels au sens...
Ça veut dire que la rationalité, elle est un peu plus contextuelle que ce qu'on dit en général, oui.
Or, il y a beaucoup de théories qui reposent sur la rationalité des agents. Est-ce qu'elles sont mises en cause aujourd'hui ?
Effectivement, l'économie comportementale remet en question un certain nombre de principes des théories dites standards qui supposent que l'individu n'a qu'un objectif, c'est maximiser son gain, et qu'il traite parfaitement, il est parfaitement informé et il traite parfaitement l'information. Par les exemples que je vous donne, j'essaie de montrer que l'individu ne cherche pas que à maximiser son gain. Et deuxièmement, il y a des asymétries d'information et tout le monde ne réagit pas de la même manière face à la même information. Donc on essaye d'enrichir le modèle qui suppose une rationalité totale, nous on relaxe un petit peu ce présupposé.
Parce qu'il y a quand même des théories en politique monétaire qui reposent sur les anticipations rationnelles. Est-ce que ça a des implications?
Ça a des implications également en macroéconomie. Alors c'est vrai que c'est plutôt des travaux microéconomiques, mais ça a aussi des implications en macroéconomie sur le fonctionnement des marchés, sur les effets d'imitation qui expliquent aussi les bulles spéculatives, etc. Oui. Je vous donne une troisième illustration, puis je vais garder un petit peu de temps pour la discussion aussi. Troisième illustration, c'est notre homo economicus, il a des sentiments moraux. C'est-à-dire, effectivement, il ne cherche pas toujours uniquement à grappiller le maximum d'argent pour lui-même. Alors, il y a un jeu très simple qui permet d'isoler cet effet-là. Alors, c'est un jeu, on l'appelle le jeu du dictateur. Pourquoi jeu du dictateur? Bon, vous avez deux rôles. Donc, on fait venir des étudiants dans le laboratoire, ils s'installent face à leur ordinateur, ils sont séparés, ils sont complètement anonymes, leurs décisions sont confidentielles. Alors il y a deux rôles attribués au hasard. Il y a des dictateurs et des receveurs. Donc chaque dictateur a son receveur. Le receveur, il est passif. Bien sûr, on ne sait pas qui c'est dans la salle et on ne lèvera jamais l'anonymat. Alors imaginez que vous êtes dans le rôle du dictateur, c'est plus confortable. Vous recevez 10 euros. D'accord ? Et votre décision consiste à choisir le partage de ces 10 euros entre vous et votre receveur. Vous pouvez entrer dans l'ordinateur n'importe quelle valeur, 0, 1, 2, 3, vous pouvez lui donner les 10. Simplement, c'est vous qui recevez l'argent, c'est vous qui décidez du partage de cet argent. Le receveur, lui, n'a rien à dire. D'accord ? Donc le dictateur gagne ce qu'il conserve pour lui. Le receveur gagne le montant que lui donne le dictateur. Voilà, c'est un jeu très simple. C'est vraiment basique. Donc la prédiction pour l'économiste standard, face à ce genre de situation, on vous donne 10 euros, on ne voit pas pourquoi vous le partageriez avec quelqu'un d'autre. Donc vous allez garder tout pour vous. Surtout que l'autre n'a rien à dire. Donc, bon, au pire, vous pouvez lui donner 1 euro, parce que vous êtes gentil, mais la prédiction, c'est vous garder tout pour vous. Voilà. Si vraiment vous cherchez à maximiser votre gain, vous gardez tout pour vous. C'est simple, il n'y aura pas de représailles, puisqu'on ne saura jamais qui vous êtes. Alors ça, c'est le comportement observé en moyenne. Il y a quand même un pourcentage de la population qui, effectivement, transfère zéro au receveur. Donc si vous aviez encore des illusions, il y a quand même là à peu près 30%, un peu moins, 28% de personnes qui gardent les 10 euros pour elles-mêmes. Mais contrairement à ce comportement standard qui correspond aux prédictions de l'économiste, vous avez quand même des transferts positifs. Donc vous avez à peu près 20% de la population qui va un peu moins, qui va décider de couper en deux la poire. Et donc je donne 5 euros à mon receveur, je garde 5 euros pour moi. Et puis une grande majorité, donc un petit peu en dessous de 50%, qui décide de donner un montant entre 1 et 4. Voilà. Donc, contrairement aux prédictions, il y a quand même une majorité de joueurs qui partagent cette somme. Alors, l'explication, c'est quoi ? C'est de dire que les individus sont bien sûr sensibles à leurs propres gains, mais que dans nos décisions économiques, nous prenons en compte aussi le gain des autres. Donc, on n'est pas ignorant, on ne cherche pas à ne pas savoir ce que va gagner ou ne pas gagner l'autre. On est sensible, quand on évalue une situation, à son gain, bien sûr, mais aussi un petit peu au gain de l'autre. Vous remarquerez que personne ne donne plus que 5 quand même. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'aller d'un petit peu plus loin, puis d'étudier cette aversion à l'inégalité. Donc, il y a des personnes qui n'aimeraient pas l'inégalité. Alors, on va pousser un petit peu plus loin le test. On va faire ce qu'on appelle le jeu d'ultimatum. C'est pas très sympathique non plus. Alors, c'est assez proche du précédent. Il y a un proposeur et puis un receveur, un répondeur. Le proposeur, c'est pas très joli, mais bon, il reçoit aussi 10 euros et il doit prendre la décision de partager ce montant entre lui et le receveur. Donc pareil, il décide d'envoyer entre 0 et 10 à l'autre. Le répondeur, lui, maintenant n'est plus passif. Il peut décider d'accepter ou de refuser. S'il accepte, eh bien, le partage est fait comme l'a décidé le proposeur. Tout simplement, on met en œuvre le choix du proposeur. S'il refuse, le proposeur et le répondeur gagnent 0. Alors, la situation elle est un peu plus compliquée, là, parce que vous devez décider, si vous êtes répondeur, est-ce que j'accepte ou pas n'importe quel montant qui me vient du proposeur ? Si vous êtes proposeur, vous devez vous dire, est-ce que mon répondeur va accepter n'importe quel partage que je vais lui imposer ou lui proposer? Alors la prédiction, là aussi, pour l'économiste qui suppose qu'on maximise ses gains, elle est simple. Un répondeur, il devrait accepter toute offre, hein, même si elle est petite, parce que toute offre, même si c'est epsilon, c'est plus que zéro, donc même si on me donne 1, bah, je vais l'accepter, hein, c'est mieux que rien. Hein. Mais au pire, je pourrais pousser le raisonnement et dire que 0, si mon proposeur me donne 0, je devrais l'accepter aussi, parce que de toute façon, j'ai 0, hein, donc ça ne change rien, je n'ai pas de raison de refuser. Hein. Ça, c'est la prédiction de l'économiste. Hein. Et donc, anticipant ça, si je suis proposeur, je devrais donc proposer la plus petite somme possible. Je garde l'essentiel pour moi, je donne soit 0, soit 1 au proposeur, et ça suffit. D'accord ? Ça, c'est la prédiction si je suis rationnel. Hein. Si je suis rationnel, que je cherche à maximiser mon gain, voilà les choix.
C'est pas évident.
Pourquoi ?
Ça, c'est si le jeu n'a lieu qu'une fois.
Ah ben, c'est joué en one shot. Hein. Justement, c'est joué une seule fois. Vous ne reverrez jamais la personne, c'est joué une seule fois. En répété, je suis d'accord, ça introduit d'autres considérations.
Pourquoi il n'a pas zéro, il est sûr de ne pas perdre. Alors que là, s'il donne une petite somme, il a le risque de perdre.
Si. Mais non,
c'est, il n'est pas sûr de perdre. Si je suppose que... Si je suppose que mon répondeur est rationnel, il devrait être indifférent. Il gagne zéro, au pire, hein, de toute façon. Donc... Absolument, je suis d'accord avec vous. Ça, c'est... Mais vous êtes certainement économiste. Donc c'est la prédiction. Dans ce cas-là, c'est comme dans le jeu du dictateur, le proposeur ne propose rien à l'autre, il garde tout pour lui. Voilà ce qui se passe. Alors, en moyenne, hein, c'est ce qu'on trouve à peu près partout où ce jeu est fait. Vous avez ici, dans les colonnes oranges, là, vous voyez les montants proposés au receveur. La prédiction, c'est ça, je donne rien. Où je donne un montant qui est de 1 maximum. Hein. Vous voyez qu'il y a moins de 5% des gens qui font ça. Hein. Ça, voilà, c'est un montant entre 1 et 2, un montant entre 2 et 3, un montant entre 3 et 4, le partage presque égal entre 4 et 5, et un montant supérieur à 5. Donc là aussi, vous voyez que comme dans le jeu du dictateur, les proposeurs proposent de partager de façon plus équitable. À la différence du jeu de dictateur, c'est que dans le jeu de dictateur, vous aviez quand même plus de monde ici. Hein. Là, ça a baissé. Hein. Donc ça, c'est la prédiction si les individus sont rationnels. Vous voyez, presque personne ne fait ça. Ici, en bas, vous avez le comportement du répondeur. C'est aussi intéressant. Vous imaginez la situation du répondeur. Est-ce que vous acceptez un partage qui ne vous donne que 1 ou 2, alors que l'autre gagne 8 ou 9 ? Alors, vous voyez, le taux de refus, quand le proposeur donne un montant inférieur à 1, le taux de refus quand le proposeur donne un montant entre 1 et 2, etc. Donc, vous voyez que dans tous ces cas de figure-là, ces personnes préfèrent gagner 0 plutôt que d'accepter un partage qui introduit une profonde inégalité entre le proposeur et vous. Vous préférez que tout le monde gagne 0, donc vous préférez détruire de l'argent. Ah oui, tout est absolument clair pour tout le monde. Donc c'est clairement, là on identifie, pour répondre à monsieur tout à l'heure pourquoi on paye et puis le fait de payer ça peut créer des biais, là on donne les conditions aux joueurs pour que, s'ils veulent être égoïstes, ils savent ce qu'ils doivent faire. Ils ont toutes les règles, tout est parfaitement clair. Et néanmoins, vous voyez que l'essentiel de la population préfère gagner zéro plutôt que d'avoir un partage inégal. Donc c'est un test très simple, mais qui illustre parfaitement ce qu'on appelle l'aversion à l'inégalité. Vous n'aimez pas, donc vous ne vous occupez pas que de vos gains, vous vous occupez aussi de l'écart entre votre gain et le gain des autres. Et ça influence vos choix économiques. Voilà, bon, il y aura encore beaucoup de choses à raconter, mais je m'arrête là avec mes petits trésors. Alors, si vous me laissez encore 5 minutes pour présenter la dernière partie de l'exposé, je voulais maintenant illustrer deux directions de recherche. Pour les économistes comportementalistes ou comportementaux. La première direction, je l'ai un peu énoncée tout à l'heure, consiste à aller rechercher dans le cerveau ce qui se passe quand on fait nos choix. Et la deuxième direction consiste plutôt à aller regarder ce qui se passe autour de nous et l'importance de notre environnement dans notre raisonnement économique. Donc on part dans les deux sens, là. Alors le premier cas, première orientation, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la neuroéconomie. C'est une discipline vraiment toute nouvelle Et alors, les photos ressortent très mal, je suis navrée. Donc, en gros, on va avoir des accords de coopération avec des chercheurs de l'Institut de neurosciences, par exemple, de façon à pouvoir soumettre des sujets au type de décision auquel vous avez participé tout à l'heure, hein, mais sous scanner, sous IRM. Et donc, on va étudier, on va collecter des millions d'observations sur ce qui se passe dans votre cerveau quand on vous demande de choisir un partage entre vous et quelqu'un d'autre que vous ne connaissez pas, qui ne vous connaît pas, que vous ne reverrez jamais. Alors, on utilise des tas de moyens. Donc, on fait des scans du cerveau. On peut utiliser l'encéphalogramme. On peut utiliser des mesures de conductance de la peau. On mesure la transpiration, ce qui nous permet d'étudier l'importance des émotions, par exemple. Parce que les émotions, je l'ai dit tout à l'heure, expliquent une partie des choix économiques. Donc, on va étudier quelles sont les émotions et comment les émotions sont corrélées avec les choix qui sont faits dans le laboratoire, etc. Donc, c'est vraiment des nouvelles méthodes, des nouvelles recherches qui se mettent en place. Pourquoi on a besoin des neurosciences ? Mais on a envie de comprendre un peu mieux les mécanismes par lesquels les niveaux d'attention, par exemple, ou le désir, ou les émotions influencent nos choix. Donc, on est bien d'accord qu'on cherche à gagner le plus d'argent possible, mais il n'y a pas que ça. Il y a des émotions, il y a le regret qui compte, il y a l'envie, la jalousie, la comparaison avec les autres, etc. Donc, on veut pouvoir avoir des mesures qui aident à attribuer ou à mesurer le poids de la recherche de gains monétaires par rapport au poids des émotions, par exemple. Donc, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, les émotions ne s'opposent pas à la rationalité. C'est même parce qu'on a des émotions qu'on apprend à prendre des décisions économiques meilleures. Donc, c'est le fameux titre d'un livre de Antonio Damasio qui s'appelle « L'erreur de Descartes ». Descartes, c'est le cartésianisme, la rationalité des choix. On devrait, pour prendre des bonnes décisions, s'abstraire de toutes nos émotions. Ben maintenant, les économistes disent exactement le contraire. Au contraire, on a besoin d'émotions pour apprendre à rectifier le tir. Alors, rien ne vaut un bon exemple. Donc, je vais revenir sur cette histoire d'aversion à l'inégalité, puis je vais vous montrer comment on étudie ça avec un IRM. Donc, c'est un papier récent, hein, 2010, qui a été publié dans Nature, qui étudie justement l'activation neuronale liée à des choix économiques. Donc, on va essayer de voir avec l'IRM si les individus, effectivement, ont de l'aversion à l'inégalité. Donc, on prend deux individus, deux sujets, et puis on va doter un des deux sujets avec un certain montant, mettons 50 euros au départ, et on ne donne rien à l'autre. Donc, en gros, on a un riche et un pauvre, hein, pour simplifier. Et puis, on va proposer à ce riche et à ce pauvre, on va leur demander d'évaluer des gains supplémentaires. Voilà. Je vais vous montrer ça. Voilà. Imaginez la situation suivante. Donc, au départ, on a deux sujets. L'un reçoit 50, là, c'est des dollars. Bon, 50 dollars, le riche, l'autre ne reçoit rien. D'accord ? Et puis, quand ils sont dans le scanner, on leur demande d'évaluer entre moins 5 et plus 5 la situation suivante. Le pauvre reçoit 0, le riche reçoit 15 dollars de plus. Donc, si vous voulez, vous êtes dans votre scanner et on vous présente une centaine de partages comme ça. Vous devez simplement dire, ça c'est j'aime pas ou j'aime bien, quoi. Hein, de moins 5 à plus 5. Vous avez une tirette, là, vous la déplacez comme ça, pour dire ce que vous en pensez. Donc voilà, donc vous avez une centaine de propositions, 0,15, mais ça peut être 0,50. Le 50 peut aller aux pauvres et 0 aux riches. Vous voyez, on représente toutes les situations possibles où de l'argent supplémentaire va soit aux riches, soit aux pauvres. Et on varie le montant. D'accord ? Vous voyez, donc c'est juste ça. Hein. Au départ, vous êtes dans votre scanner et on vous propose une centaine d'écrans comme ça. Et vous dites simplement, ça me plaît, ça me plaît pas. Alors, après, on collecte toutes ces données, puis on regarde déjà du point de vue comportemental, hein, comment les gens réagissent. Donc, en bleu, là, il s'agit des montants qui augmentent votre gain à vous. Et ici, c'est l'évaluation que vous en faites. Ici, c'est pour les riches, et ici, c'est pour les pauvres, selon ma définition. Hein. Donc, vous voyez que qu'on soit le sujet riche de départ ou le sujet pauvre du départ, dans les deux cas, vous évaluez positivement une situation qui vous donne plus d'argent. D'accord ? Alors, vous l'évaluez encore plus positivement quand vous êtes le pauvre dans le jeu, hein ? Bien sûr. Normal, hein ? Maintenant, comment est-ce que vous évaluez le transfert à l'autre ? Ici, vous jugez l'argent qui va à l'autre. Alors, les riches évaluent positivement le transfert au sujet pauvre. C'est-à-dire qu'ils ont un jugement positif quand c'est le pauvre qui reçoit de l'argent en plus. Bien sûr, ceux qui sont les pauvres ont un jugement plutôt en moyenne négatif quand le transfert va à l'autre, quand c'est, oh là, quand c'est le riche qui récupère de l'argent en plus. C'est relativement rationnel. Hein, ça veut dire simplement que vous n'aimez pas trop. Si vous êtes riche, vous préférez gagner plus d'argent, mais ça vous fait plaisir de voir que le pauvre en a aussi. Si vous êtes pauvre, ça vous fait beaucoup plaisir d'avoir de l'argent en plus. Ça vous déplaît franchement que ce soit le riche qui récupère de l'argent en plus. Jusque-là, c'est pas être très étonnant. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau ? Mais on regarde des zones qu'on sait être liées aux récompenses. Donc en particulier, je ne veux pas m'étendre là-dessus, mais le striatum ventral, c'est une des zones avec le cortex préfrontal, c'est des zones qui sont très activées pour des choix liés à la récompense, le plaisir, la satisfaction. Donc ça marche pour le jus d'orange, pour l'activation sexuelle, mais aussi pour l'argent. Hein. C'est les mêmes zones qui... Voilà. Alors qu'est-ce qui se passe dans le cerveau ? Vous voyez quelque chose d'intéressant. Là aussi, vous voyez que quand le gain proposé vous revient, vous avez une forte activation de votre cérébrale, de ces zones-là, mais c'est vrai surtout pour les pauvres, relativement peu pour les riches. Ici, quand le transfert va aux pauvres, vous voyez qu'il y a une très forte activation cérébrale chez le riche. Et quand l'argent va aux plus riches, vous avez aussi une activation cérébrale chez le pauvre, mais elle est plus faible. Ce que ça illustre, ça, c'est l'activité cérébrale liée à l'aversion à l'inégalité. Bien sûr, on aime, quand on est le plus désavantagé, on juge négativement et on réagit face à une augmentation de l'inégalité. Inversement, quand vous êtes en position avantageuse, c'est vous le riche dans le jeu, vous êtes également affecté par l'aversion à l'inégalité. Vous préférez en général une situation plus égalitaire plutôt qu'une situation où vous êtes très avantagé. Donc avec ce type de test, on arrive à identifier dans le cerveau la réaction à l'aversion à l'inégalité avantageuse et l'aversion à l'inégalité désavantageuse. On arrive à isoler ce genre de choses. Donc voilà à quoi sert ce type d'analyse. Bon. En gros, c'est, pour aller vite, c'est cette situation-là. Hein. C'est en général... et ça, j'ai mis une illustration avec les singes, parce que c'est des expériences qui ont été faites avec les animaux aussi. On a exactement la même chose. Un singe, vous lui proposez un concombre ou du raisin. Il préfère le raisin. Hein, il n'aime pas trop le concombre. Ça se mange, mais ce n'est pas terrible. Et si vous mettez à côté un autre singe, et c'est l'autre singe qui a le raisin, vous allez voir que le premier singe à qui on a donné le concombre, généralement, il va acheter le concombre, il ne le mangera pas. Hein. Donc, c'est des réactions qu'on retrouve chez, chez les primates, en général. L'aversion à l'inégalité, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant.
Est-ce que c'est propre aussi à notre pays ? Parce qu'il y a différents pays qui ont des modes culturels différents. Un Américain, lui, ça sera la conquête de l'Ouest. Le dollar, ça va faire cheap. Nous, Européens... C'est toujours la convoitise, regardez ce qui est dans l'assiette du voisin.
Vous allez penser qu'on a fait un show avec monsieur et qu'on a tout préparé à l'avance. Voilà la réponse. Donc c'est la deuxième tendance. C'est effectivement essayer d'aller voir dans l'environnement si on retrouve les mêmes résultats ou pas que ce que nous on voit dans le laboratoire en Europe ou aux États-Unis. Donc on va essayer de voir si la rationalité des comportements est universelle ou pas. Donc c'est pas difficile, il suffit de faire les mêmes expériences dans des cultures différentes. Ou de même, vous pourriez me dire, vous utilisez des étudiants, mais est-ce que les salariés se comporteraient pareil ? La réponse est, on fait les mêmes expériences avec soit des salariés ou dans des pays différents. Alors, on réplique les mêmes protocoles, on va simplement dans des pays différents. Alors, celle-ci, par exemple, teste les mêmes jeux que ce que je vous ai montré tout à l'heure, le dictateur, l'ultimatum, dans 15 sociétés peu développées. Et qu'est-ce qu'on observe? En gros, les mêmes résultats, même comportement. Simplement, on observe des petites différences. Et en particulier, les normes de justice varient. Ce que j'appelle norme de justice, c'est par exemple le répondeur qui refuse un partage inégal. Donc les normes de justice varient en fonction du mode d'organisation de la société. Donc par exemple, dans les offres, dans le jeu d'ultimatum que je vous ai présenté tout à l'heure, les offres sont supérieures dans les sociétés d'échange et de coopération. Dans les petites tribus où les populations vivent ensemble, on se partage le travail, coopère, eh bien, en moyenne, vont donner des montants supérieurs quand ils sont dans le rôle du dictateur ou dans le rôle du proposeur. Inversement, les offres vont être inférieures dans les sociétés individualistes et moins ouvertes au marché. Donc il y a des sociétés qui échangent très peu, simplement des sociétés de pêche, de chasse, très individualistes. Eh bien, dans ces sociétés-là, on va voir qu'en moyenne, les offres sont inférieures. Ça, c'est pour vous répondre sur les États-Unis par rapport au Japon, à Israël, etc. Là, très peu de différence. Très peu. Par contre, dans ces petites sociétés tribales, on peut obtenir, on n'a pas le temps de détailler tout ça, mais il peut y avoir des... Globalement, il n'y a pas de remise en question de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a des fluctuations. Et ces fluctuations sont clairement explicitées par le degré de développement. Là, il y a une autre expérience que je vous aurais bien présentée, parce qu'il y a des femmes dans la salle, et c'est aussi un sujet important. Pourquoi les femmes accèdent si peu aux positions de haute responsabilité, ou pourquoi il y en a si peu au Parlement? Donc on a depuis quelque temps regardé le rôle des goûts pour la compétition. Je ne suis pas en train de dire que c'est le goût pour la compétition qui explique tout. Il y a de la discrimination et des tas de choses comme ça. Mais une des hypothèses, c'est de dire que les femmes n'ont pas la même attirance pour les situations compétitives. Alors, on a un jeu où on demande aux gens de faire un travail réel, mais on leur dit, vous avez simplement le choix de votre mode de paiement. Est-ce que vous préférez être payé à la pièce? Pour chaque bonne réponse, vous gagnez une certaine somme d'argent. Ou est-ce que vous préférez entrer en compétition avec une autre personne que vous ne connaissez pas, qui ne vous connaît pas? Et on va comparer vos deux performances. Et puis il y en a un qui va obtenir le prix élevé, puis l'autre qui va obtenir un prix faible ou zéro. En termes d'espérance, il vaut mieux choisir la compétition, c'est ce qui rapporte le plus, en moyenne. Voilà. D'accord ? Donc vous avez le choix simplement, vous allez faire le même travail, mais soit on vous paye à la pièce, donc on ne regarde que votre performance à vous, soit on vous compare avec quelqu'un d'autre. Ben, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'en général, 60% des hommes préfèrent la compétition contre 35% des femmes. Et c'est un test, on leur fait avec des tâches différentes, dans des pays différents, on retrouve la même chose. Alors ça, c'est un peu intriguant, c'est un résultat vraiment robuste. Mais il y a des chercheurs qui sont allés voir dans des sociétés africaines, et en particulier chez les Maasai et chez les Kazi. Alors la différence entre les Maasai et les Kazi, c'est que les Maasai ont une société patriarcale comme la nôtre. Par contre, les Kazi ont une société matriarcale. Eh bien, vous refaites cette même expérience dans les deux pays, vous observez des résultats totalement contraires. C'est-à-dire que chez les Maasai, comme en Europe, comme aux États-Unis, les hommes choisissent systématiquement la compétition, les femmes la rejettent. Vous allez chez les Kazi, vous avez l'inverse. Les hommes, ils sont compétitifs, mais les femmes le sont encore beaucoup plus. Donc, les normes, bien sûr, d'organisation de la société comptent énormément. Et par nos méthodes expérimentales, on peut arriver à montrer ce genre de choses. Voilà, écoutez, je conclue parce que je regardais un petit peu de temps pour la discussion avec vous. Donc, l'économie comportementale, c'est clairement, pour reprendre ce que disait monsieur, c'est une remise en question de la rationalité absolue. On va au contraire mettre en avant une rationalité contextuelle. Quand on évalue une situation, on regarde l'environnement, ça compte aussi. Donc on a plutôt une rationalité contextuelle. L'homo economicus, c'est aussi un homo réciproquant. Je n'ai pas eu trop le temps de développer ça, mais quand on a été gentil avec vous, vous avez tendance à être gentil avec l'autre. Quand on a été méchant avec vous, vous avez aussi tendance à sanctionner l'autre. C'est aussi un homo rivalis. La compétition, c'est quelque chose de très fort dans les comportements individuels. Je n'ai pas eu le temps de développer cet aspect-là, mais c'est une dimension très, très, très robuste. Les sentiments moraux, c'est une condition de l'efficience économique. Dans les jeux que je vous ai présentés, je vous ai montré que tout le monde n'est pas égoïste. Il y a des choix de partage. Mais si vous rattachez ces comportements avec des situations où on peut créer de la valeur, on voit que c'est dans les groupes où il y a le plus de sentiments moraux qu'on crée le plus de valeur. Donc les groupes qui se font confiance, etc., arrivent à des meilleurs résultats économiques. Les émotions, une condition fréquente de la rationalité, et puis deux moteurs dans l'économie, la concurrence et la coopération. C'est aussi des dimensions que je n'ai pas eu le temps de développer, faute de temps, mais on retrouve les deux, et les deux ont vraiment leur importance majeure pour la réussite des sociétés. Voilà. Puis je vous fais un petit peu de publicité pour terminer. Vous pouvez participer à des expériences en laboratoire. On cherche en particulier des couples pour participer à un jeu économique. Ça sera entre décembre et février 2011. Ça dure une heure et demie, on va dire. C'est à Écully. Et donc, je vais vous laisser un petit dépliant. Si ça vous intéresse, envoyez-nous un mail et puis on vous recontactera. Voilà. Maintenant, je suis à votre disposition pour des questions. Puis je crois que Pascal Lemerrère est arrivé, directeur des journées de l'économie. Donc, si Pascal, tu veux dire aussi un mot sur les GECO, peut-être on prend les questions d'abord. Oui. Donc, si vous avez quelques questions, oui.
Super, on parle un petit peu déjà, c'est que l'économie, c'est une science expérimentale. Mais vous parliez aussi, quand vous avez décrit le raisonnement économique, vous avez dit en fait, on a un modèle, on fait une prédiction, on fait une expérience qui permet de valider ou d'invalider notre modèle. Et puis après, on a parlé du fait qu'il y a des comportements moraux, des comportements sociaux qui vont affecter les décisions. Est-ce qu'on a des modèles qui permettent d'incorporer tous ces comportements-là, les incorporer avec, on va dire, du chiffre, pour faire des prévisions précises?
Alors, on continue à... En fait, notre vie est un peu plus difficile qu'avant, parce que maintenant, en général, on fait un premier modèle avec les prédictions standards, la rationalité absolue, hein, et on ajoute des prédictions comportementales. Donc ça, c'est le premier élément de réponse. Donc on essaye d'envisager les deux situations. Si tout le monde est égoïste, est-ce qu'on porte de manière égoïste? Et si on relâche cette hypothèse, qu'est-ce qu'on peut prédire d'autre? Bon, l'étape suivante, c'est effectivement d'enrichir les modèles théoriques et de proposer des modèles alternatifs. Donc, celui qu'on utilise le plus comme modèle alternatif au modèle classique, c'est le modèle d'aversion à l'inégalité. C'est le modèle que je vous ai montré tout à l'heure sous forme mathématique. Là, en gros, on va mettre dans notre fonction d'utilité, puisqu'on travaille des fonctions d'utilité, on va indiquer le gain de la personne et et l'écart de gain entre la personne et l'autre joueur. Voilà. Donc c'est exactement ce que dit cette fonction. C'est dit de manière littéraire. Ça veut dire que votre décision, votre utilité, votre satisfaction augmente avec votre gain, mais elle risque de diminuer si vous gagnez plus que l'autre. Avec un petit paramètre alpha, là. Et elle va diminuer si vous gagnez moins que l'autre. Avec bien sûr bêta qui est supérieur à alpha, c'est-à-dire vous aimez encore moins gagner moins que l'autre que gagner plus que l'autre. Voilà. Ça, typiquement, c'est un modèle d'aversion à l'inégalité qui permet de délivrer d'autres prédictions de comportement. Donc effectivement, on essaye d'intégrer dans les modèles théoriques des dimensions morales, de comparaison, qui ne l'étaient pas jusque-là. J'espère simplement que j'ai bousculé vos impressions sur ce qu'est un économiste.
Oui.
Il me semble que l'économiste, selon ce que vous dites, se rapproche de ce qu'on appelait traditionnellement le sociologue. Enfin, l'étude des phénomènes de société dans les différents...
Je pense qu'on communique plus avec les autres disciplines qu'auparavant, ça c'est clair, mais on reste économiste au sens où on cherche d'abord à quantifier, on cherche ensuite, on part quand même de présupposer sur le choix économique qui reste quand même la rationalité et la maximisation du gain, donc le calcul individuel. Le sociologue ne part pas du postulat du comportement individuel. Donc nous, on part de l'individu. Et on essaye de comprendre comment l'individu intègre les autres dans ses choix. Mais on part quand même de l'individu. Le sociologue ne va pas partir de l'individu. Et je pense que ça reste encore une différence fondamentale. Maintenant, on peut dialoguer plus facilement, parce qu'il y a des questions qui ont été traitées par les sociologues ou les psychologues il y a très longtemps, que les économistes vont s'approprier maintenant, mais avec des outils d'économistes. On reste au cœur de notre discipline. On parle avec les autres, mais on reste quand même économiste. Mais le dialogue est plus facile. Là, c'est tout à fait clair. Mais on n'est pas sociologue.
Ni psychologue.
La base de l'économie, c'est l'homme.
C'est l'individu, oui.
Ben, nous, ce qui nous intéresse, c'est la création de richesses. Hein. Et donc, comment l'individu, par ses choix, par ses décisions individuelles et collectives, modifie, influence la création de richesses. Et le partage des richesses, bien sûr.
Puisqu'on parle de l'individu, est-ce que toutes ces études-là, qui s'intéressent vraiment à l'intérêt de l'individu propre, est-ce qu'elles s'appliquent aussi à des individus moraux comme une entreprise, par exemple?
Oui.
Alors, on a beaucoup de recherches, en fait, sur les modes d'organisation, les règles efficaces des marchés, des choses comme ça. Donc, alors on est prudent, quand même. Hein. On est prudent parce qu'on est quand même dans un cadre de laboratoire. Autrement dit, on a une énorme validité interne. On contrôle l'environnement, on contrôle l'information. Par contre, on perd en validité externe. C'est-à-dire que ce qu'on observe dans le laboratoire, est-ce que c'est représentatif de ce qui se passe à l'extérieur? Donc, on est prudent dans nos conclusions. Mais de plus en plus, on intervient en partenariat avec des entreprises pour réfléchir à des solutions communes à un problème identifié par l'entreprise, par exemple. L'étude qu'on fait avec le Crédit Suisse, c'est une étude sur la coopération entre les générations. Est-ce qu'il vaut mieux, on va partir en retraite un peu plus tard qu'auparavant, donc on va garder dans l'entreprise des individus aux âges, enfin des salariés aux âges de plus en plus différents. Avant, le problème des entreprises, c'était savoir comment on transférait le capital humain de ceux qui partaient en retraite ou en pré-retraite vers les jeunes. Maintenant, c'est plus ça le problème. Le problème, c'est de savoir comment on va composer des équipes de travail pour qu'il y ait une coopération entre les plus jeunes et les plus anciens, voire les très anciens. Donc, l'étude qu'on a faite, c'est là-dessus. Donc, on a été en entreprise, on a fait jouer des juniors, des seniors, et puis on étudie leurs décisions selon qu'ils sont dans des groupes homogènes, de la même classe d'âge, ou dans des groupes hétérogènes. Et on voit des choses intéressantes, parce que ça ne se passe pas du tout de la même manière. Donc on peut faire des études en entreprise. D'ailleurs, le GATT est centre de compétences pour EDF en économie expérimentale, par exemple. Donc il y a des grosses entreprises qui utilisent l'économie expérimentale. La NASA a utilisé l'économie expérimentale à un moment où il fallait couper dans les budgets, et donc savoir qu'est-ce que on avait intérêt à... jusqu'où il faut aller dans la recherche d'une innovation, à partir de quand il faut décider d'arrêter. À partir de quand ça devient trop risqué de vouloir à tout prix chercher à innover dans un produit ou un processus. C'est une décision qui est difficile quand on fait des recherches qui durent 10 ans ou 15 ans. Hein. Donc voilà, c'est un type d'outil qui peut être utilisé par des entreprises. Mais dans ce cas, on va plutôt on va essayer de faire les expériences dans les entreprises avec les salariés pour avoir plus de diversité. Alors, je ne sais pas si je réponds à votre question.
C'est répondre particulièrement. Est-ce que ça permet tout le travail qu'on fait, est-ce que ça permet de regarder d'une manière un peu différente, et ça, par exemple, de macroéconomie, où on n'a aucun point au-dessus, on est à l'économie. Là, on a une entreprise, on a une direction qui est capable d'amasser des données sur ses employés, sur ses filiales, sur les résultats. Si on parle d'un point de vue macroéconomie, on parle de marché qui sont un peu.
Oui. Alors on le fait, c'est vrai qu'il y a de la macroéconomie expérimentale, beaucoup moins. Beaucoup moins parce que en micro, on peut isoler, on peut simplifier énormément une situation. En macro, vous avez énormément de paramètres qui entrent en ligne de compte, et donc la sélection des paramètres utiles que vous voulez étudier est plus difficile parce qu'il y a plus d'interdépendance. Donc il y a beaucoup moins d'expériences en macro. Les expériences en macroéconomie, en général, elles durent 3 ou 4 heures. Donc c'est contraignant, ça demande aux gens énormément d'efforts cognitifs. Et puis, il y a un problème de compréhension. Il faut être sûr que les individus comprennent bien les décisions qu'ils prennent. Mais on a quelques expériences de ce type-là. Alors nous, on ne fait pas trop ça dans notre laboratoire, mais il y a des labos à l'étranger qui le font, qui essaient de reconstituer une organisation ou des marchés. Les marchés, on fait ça. On fait des marchés, on fait des bulles spéculatives en laboratoire, par exemple. Donc on a des traders qui viennent. On a fait ça récemment. Enfin, donc là, on l'a fait avec des étudiants, mais on pourrait le répliquer avec des vrais traders. Mais on leur donne toute l'information sur la valeur d'un actif. Donc on leur montre que la valeur fondamentale d'un actif baisse au cours du temps. Vous leur donnez toute l'information, puis vous les laissez échanger sur le marché. Donc ils ont chacun 15 actions, un portefeuille monétaire, on les laisse échanger. Dans un traitement, on se contente de faire ça. Puis dans un autre traitement, on leur met des bonus en plus. Puis on voit ce qui se passe.
Je suis un ancien de la banque, madame, et j'ai vu ces études de marché fondamentales. Surtout aux années 86, où les banques de dépôt ont voulu changer leur fusil d'épaule et en se spécialisant sur les grandes lignes de crédit à des entreprises multinationales ou à l'immobilier, avec des taux extrêmement, des marges très restreintes, et on a vu ce que ça donnait comme résultat.
Donc il y a des tests que l'on peut faire, en laboratoire. Si vous voulez, l'idée, c'est que... je vous ai plutôt parlé de relations interindividuelles, mais on peut reconstituer du marché en laboratoire, ça c'est sans aucun problème, et donc on peut introduire des règles de fonctionnement différentes et voir comment les individus réagissent à ça, et donc comment le marché évolue. Ce qui est clair, c'est que quand on étudie des situations de marché, donc avec de la compétition, les prédictions du modèle standard marchent parfaitement. Donc pour les modèles macroéconomiques, ce qu'on observe, c'est qu'en général, on tend à... les expériences confortent les prédictions des modèles théoriques. Donc on peut arriver à avoir des règles, à tester des règles différentes et dire, voilà, du point de vue macroéconomique, on pense en laboratoire que telle mesure risque d'avoir tel effet, mais on ne contrôle pas tout parce qu'on a beaucoup simplifié les choses. Voilà. Je pense que, Pascal, peut-être comme le temps passe, si tu veux dire deux mots... Je vous mets le petit papier sur les participations aux expériences sur le coin de la table, là. Merci.